En septembre 2021 s'ouvrait le procès des attentats du 13 novembre. Depuis, les condamnations sont tombées, mais cette date restera à jamais gravée dans nos mémoires. Je suis Marisa Fimei, journaliste pour Les Voix du Crime. Voici Mémoire du 13 novembre, un podcast de la rédaction de RTL, diffusé pour la première fois à l'automne 2021. Il donne la parole à 8 témoins clés de cette soirée. Bonne écoute.
Pour eux, c'est balle trappe, quoi. Ça s'invente pas, les sifflements de balles. On voit rien, c'est un éclair, c'est...
Probablement pour me protéger, je commence à compter. Je commence à les compter, les corps. Arrivé à 60, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, ça rime à quoi? Enfin, bon, on comprend rien.
En fait, c'était nous qui étions là. On était en train d'opérer, mais on aurait pu être sur la table d'opération. En fait, on se soignait nous-mêmes.
J'ai dû crier un peu maman. Comme les soldats de la guerre 14-18, quand ils restaient à crever sur le champ d'honneur, vraiment la sensation d'être juste un petit enfant perdu.
Mon chirurgien m'a dit, vous êtes une gueule cassée et on va vous réparer. Vous en aurez pour environ 2 ans. Ça va faire 6 ans, c'est toujours pas fini.
À partir du moment où on m'a transfusé, il y a ce truc en moi qui me dit, mon gars, t'es sauvé.
On se souvient tous de notre 13 novembre, de l'instant précis où nous avons appris que des attaques étaient en cours à Paris. La lumière de la mémoire hésite devant les plaies, disait Aragon. Que reste-t-il de nos souvenirs? Comment se relever? Comment juger l'horreur? Vous écoutez le procès du siècle. Sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris, une cour d'assises tente de démêler les responsabilités de ce massacre. 9 mois d'audience, des milliers de destins qui chavirent. Dans ce podcast, vous allez entendre certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Dans ce 8e épisode, vous allez écouter Romain Rousseau. En 2015, il était chirurgien à l'hôpital de la Salpêtrière. Toute la nuit, il a réparé les corps des blessés fauchés par les balles des Kalachnikovs.
Je sortais de garde, j'avais pris une garde le jeudi soir, et puis j'étais tout simplement devant la télé, devant le match de foot, et pour être tout à fait franc, j'étais en train de dormir, parce que j'étais fatigué de récupérer de ma garde de la veille. Mon fils était couché, et ma femme, qui est également médecin, prenait une garde, elle, de son côté, aux urgences d'un autre hôpital. Et puis, je suis réveillé par un texto d'une amie qui me dit « J'espère que t'es pas de garde ce soir, parce que ça a l'air de chauffer, il va y avoir du boulot ». Donc je suis réveillé par ce texto, je suis devant la télé qui tourne en boucle. À ce moment-là, le match de foot, il y avait des commentaires où on savait pas trop ce qui se passait à ce moment-là. On était encore dans l'inconnu complet. Et donc, le premier réflexe, c'est d'appeler ma collègue qui était de garde ce soir-là pour avoir des nouvelles un peu au plus près, quoi. Donc je lui dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu qu'au Stade de France, il y avait eu des explosions, mais personne ne sait trop ce qu'il en est. Donc elle me dit, écoute Romain, pour l'instant, on commence à avoir des traumatismes par balle. On est en attente. Je dis, écoute, tu me tiens au courant. Puis se passe quelques minutes, puis elle me rappelle en me disant, en fait, ça va pas du tout, c'est plus compliqué que prévu. Il semblerait qu'il y ait plusieurs attentats. Donc elle me dit, ça va être très compliqué, c'est la merde. Donc j'ai décidé d'aller à l'hôpital et de faire mon travail, quoi. Alors j'avais mon fils, j'avais pas de nounou, il était tard le soir, donc j'ai cet ami qui m'avait envoyé ce SMS qui m'avait réveillé. Comme je savais qu'elle dormait pas, je l'ai rappelé, je lui dis, est-ce que je peux te déposer mon fils, parce que il va falloir que j'y aille et ma femme est de garde, donc je vais déposer mon fils assez rapidement. Elle habite à côté de la maison et là j'ai pris ma voiture pour rejoindre l'hôpital. Et l'ambiance était un peu surprenante parce que c'était pesant, il y avait personne, il y avait quelques voitures qui partaient de Paris vers la banlieue. Moi, j'étais dans l'autre sens et j'avais l'impression d'être tout seul à aller vers Paris. Tout le monde quittait la capitale, entre guillemets. Et donc, je suis arrivé très rapidement sur le site de la Pitié-Salpêtrière où je me suis habillé, j'ai pris ma blouse et je suis descendu au bloc opératoire. Et là, il y avait déjà des collègues qui étaient là. La salle de réveil, donc, qui accueille habituellement tous les patients lourds, les accidentés de la route, les polytraumatisés, les patients qui relèvent de la réanimation urgente. Cette salle de réveil était pleine de praticiens, d'étudiants, médecins, d'externes, d'internes, de chefs de clinique. Et ce qui m'a surpris au départ, c'est de voir un silence incroyable compte tenu de la du monde qu'il y avait. C'est-à-dire qu'habituellement, il y a toujours du bruit dans cette salle de réveil, il y a toujours de l'urgence, ça bouge dans tous les sens. Et là, c'était incroyablement calme, chacun savait ce qu'il avait à faire. Il commençait à y avoir les équipes de secours qui amenaient des brancards, des patients qui arrivaient, qui déferlaient, et en fait, on les a accueillis. Tout de suite, ça s'est mis en route. La première étape était de faire la première évaluation en fait de ces patients blessés, à la fois sur le plan traumatique balistique. Moi, je m'occupe essentiellement en orthopédie, on s'occupe de l'appareil locomoteur, donc des os et des articulations, mais il y avait tous les organes qui pouvaient être touchés. Donc il y avait les neurochirurgiens qui étaient là, il y avait les chirurgiens cardiaques, les chirurgiens vasculaires, et c'était gravissime, c'était terrible en termes de gravité. Il faut savoir que ces traumatismes balistiques, en fait, c'est des armes qui font exploser l'os, en fait. Ça fait pas des fractures nettes comme on pourrait le faire lorsqu'on chute, lorsqu'on a un accident de la route. Ça pulvérise l'os, en fait. Donc, le traitement de ces fractures, qui sont en plus des fractures souillées parce qu'elles sont ouvertes par la balle, et il y a un aspect de chaleur locale, donc de brûlure. Donc, il y a des problèmes de couverture cutanée, donc des risques d'infection, de non-consolidation. Les traumatismes, et les victimes en parleront mieux que nous, pour les plus graves d'entre elles, gardent des séquelles à vie. On était vraiment dans une situation d'urgence majeure, et donc on avait établi un code d'identification pour chacune des victimes, parce que on n'avait pas forcément les pièces d'identité, et puis l'urgence, c'était surtout de les soigner. Et donc, on n'avait pas encore leur nom et leur prénom. Il y a eu un gros travail administratif derrière pour identifier les personnes. Il faut avoir à l'esprit qu'un certain nombre étaient dans un coma artificiel lorsqu'ils arrivaient à l'hôpital. Donc, ils n'avaient même pas la possibilité de donner leur nom et leur prénom. Et puis, ce qui était assez surprenant aussi, c'est que dans cet afflux de victimes, il y avait des victimes qui étaient plus ou moins traumatisées. Et il y a une certaine solidarité des victimes, puisqu'il n'était pas rare qu'on entende des patients dire « mais occupez-vous plutôt de lui, il est plus grave que moi ». Et il y avait une solidarité du corps médical pour se soutenir, mais il y avait aussi une solidarité des victimes. Il y a eu un vrai esprit de dire bah, « prenez en charge plutôt celui qui est à côté de moi, ou c'est moins grave, je vais m'en sortir ». Et voilà. J'étais surpris d'être épuisé par la garde que j'avais effectuée la veille, et en fait de n'être pas fatigué, parce qu'il y avait une espèce d'atmosphère de décharge d'adrénaline, et fallait être là, et fallait aider, et tous on était dans cette atmosphère-là. On s'est jamais retourné en disant qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, on faisait ce qu'on savait faire, on a fait comme on a pu, du mieux qu'on pouvait. Ce qui est très paradoxal, c'est que il y avait pas d'émotion personnelle. On était dans notre travail, et quand on est au bloc opératoire, il y a peu de place pour les émotions. Il faut faire ce qu'on a à faire. Si ce n'est, ce qu'on s'est dit avec mes collègues, c'est en fait, c'était nous qui étions là. C'était nous qui étions... On était en train d'opérer, mais on aurait pu être sur la table d'opération. On connaissait tous hein, les lieux dans lesquels se sont produits les attentats, notamment le petit Cambodge, tous les petits bars et les restos entre l'hôpital Saint-Louis et le Bataclan. Et donc, c'était juste des jeunes comme nous, dans des lieux qu'on connaissait, qu'on fréquentait. Et ça aurait pu être nous, le vendredi soir, à boire un pot entre potes pour finir la semaine et sans avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de condamnable. Et c'est peut-être simplement cette émotion-là, entre chacun des patients, pas sur l'aide chirurgicale, mais dans l'enchaînement de la nuit, on s'est dit, mais c'est pas possible, en fait. On s'est ressenti, nous, agressés. Et donc, c'est aussi peut-être ça qui nous a porté pour faire le mieux qu'on a pu. Parce que, en fait, on se soignait nous-mêmes, d'une certaine manière, parce que ça pouvait nous atteindre. Il se trouve que parmi les victimes qui sont arrivées à ce moment-là, dans le déferlement des victimes, j'étais avec un de mes collègues, avec un interne, et puis on voit une victime qui avait une grosse lésion au niveau du coude et également au niveau de la face. Et donc je dis assez rapidement, écoutez, on va déjà faire le bilan au niveau du crâne et de la face, parce que le coude c'est très secondaire et les lésions ont l'air majeures au niveau de la face. Et il se trouve en fait que Cette jeune femme était une personne dont les parents étaient des amis intimes de mes parents et avec qui on avait passé dans notre enfance, dans notre adolescence, plusieurs moments, des cours de Nouvel An ou de soirées le week-end. Et donc, je ne l'ai pas reconnue. Et c'est qu'après, une fois l'orage passé, entre guillemets, puisque moi, j'avais pris la rotation du samedi, enfin du vendredi, donc j'étais parti le samedi, et finalement, on a pu s'occuper de son problème traumatique au niveau du coude que le lendemain. Et son papa m'appelle en me disant, Romain, écoute, est-ce que tu as vu ma fille? Elle a été transférée à la Pitié-Salpêtrière, elle a ce type de lésion. Et là, je reconnecte tout de suite les fils. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas elle. Donc j'ai tout lâché, je suis allé voir en réanimation, et effectivement, j'ai retrouvé, et puis elle était intubée, elle était encore sédatée, dans un coma artificiel pour passer le cap, elle avait été opérée par nos collègues de maxillofacial, par nous sur le coude, et là, ça n'a fait que confirmer l'émotion initiale, c'était vraiment nous, c'était jusque dans notre entourage très proche. C'est probablement a posteriori le plus difficile, c'est d'avoir... pas de l'avoir laissé parce qu'il y avait des priorités, mais probablement que si je l'avais reconnu, si j'avais su qui c'était tout de suite, j'aurais probablement réagi différemment. Ou en tout cas, j'aurais peut-être priorisé le coude, d'ailleurs à tort, parce que quand justement il y a des émotions dans tout ça, on est plus lucide sur l'ordre des choses. La première pause, elle s'est déroulée au cours de la nuit parce que ça commençait à se calmer. Déjà, les attentats, enfin, les choses étaient maîtrisées. Donc, on commençait à avoir à peu près un état exact du nombre de blessés et ça commençait à se calmer dans la déferlante d'afflux de patients. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait une pause. Je suis allé en salle de garde. La salle de garde, c'est un lieu mythique pour tout interne et chef de clinique. C'est un sanctuaire. C'est notre endroit où on se retrouve, où on se ressource et où justement, ces salles de garde sont extraordinaires parce que on a l'impression qu'il peut rien nous arriver et on est là pour justement décompresser. Je me retrouve avec mon collègue qui lui était arrivé un peu plus tard dans la nuit parce qu'il était sorti le vendredi soir et il a eu les messages un peu plus tard que les autres. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux là à boire un café, deux cafés, trop de café qui est toujours aussi mauvais en salle de garde mais qui était nécessaire et à se dire mais... quand est-ce qu'on aura fini de tous les opérer et quelles vont être derrière les séquelles et est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on fait le mieux qu'on peut et pour leur redonner une vie normale par la suite, même si on savait que c'était pas possible vu la gravité de la plupart des blessures. On avait conscience que sur certaines blessures qu'on prenait en charge, les séquelles fonctionnelles seraient majeures par rapport à la gravité de ces blessures. On a été sur le pont au bloc opératoire avec mes collègues. On était 4 équipes chirurgicales non-stop en continu. Alors la première équipe s'est arrêtée le samedi en fin de matinée pour être relayée par une autre équipe. Et en totalité, on a opéré jusqu'au dimanche en fin d'après-midi. Donc la nuit de vendredi à samedi jusqu'au dimanche fin d'après-midi. Quand je suis rentré chez moi, déjà... avant d'aller chercher mon fils, je me suis posé dans la voiture, j'ai juste pleuré. C'était peut-être ça, la décompression. C'était peut-être juste... mais j'avais besoin de me lâcher un peu. Et puis après, j'avais surtout hâte de revoir ma femme, qui était de garde aussi. C'était ça qui était important pour nous, de nous retrouver et de se dire que bah, finalement, la vie, elle était fragile, mais que nous, on avait la chance d'être tous les trois ensemble. Ça, c'était très fort. Parce que ça, encore une fois, hein, ça aurait pu être nous. Et juste le fait de se retrouver tous les trois là, et puis quand on a vu la mort, ou en tout cas les conséquences d'une attaque telle que celle-ci, même sur le plan fonctionnel, d'être en bonne santé. Le pire, bien sûr que c'est la mort, mais les séquelles à vie de toutes ces victimes, pour les proches, le deuil de conséquences fonctionnelles de séquelles à vie, on le renvoie toute sa vie à ses proches d'une certaine manière, et pour soi, et on vit toute sa vie avec ça à l'esprit. Et on prend la mesure de l'importance de la vie et de l'importance de la santé probablement à ce moment-là. L'hôpital a été extraordinaire de par sa capacité d'absorption d'un flux extraordinaire de patients sans jamais être débordé. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut dire, c'est qu'on n'a à aucun moment été débordé. On parle beaucoup de est-ce qu'on a trié ou pas trié. Le terme n'est pas bon. On a priorisé, mais on le fait tout le temps, c'est notre travail. Il y a forcément une priorisation à faire. Demander à un urgentiste, il y a toujours une priorisation sur les entrants. Et l'attente aux urgences, elle est parfois longue parce qu'il y a un ordre de priorité et de prise en charge pour certains patients. Et donc, on a priorisé, mais on a toujours été capable de répondre à cet afflux massif et de prendre en charge avec un matériel chirurgical qui était en nombre suffisant, une équipe qui était en nombre suffisant pour pouvoir mobiliser autant de personnes dans un même lieu. Aujourd'hui, il n'y a que l'hôpital qui est capable de le faire. Et je pense qu'il faut garder cette capacité hospitalière pour pouvoir faire face, s'il est nécessaire, à d'autres événements de ce type ou d'autres, hein, d'ailleurs. Je n'ai pas du tout le sentiment d'être un héros. Encore une fois, j'ai fait mon travail, j'étais sur mon site professionnel. Quand on est à l'hôpital, on compte pas ses heures, donc j'ai pas compté mes heures. Est-ce qu'il y a des héros sur ce type d'événement? Je sais pas. En tout cas, s'il doit y en avoir, c'est probablement les victimes qui sont là et qui sont juste la démonstration que de survivre à tout ça, c'est déjà un acte héroïque en fait. Mais moi, je suis pas un héros.
Écoutez Le procès du siècle. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de ce podcast sur l'application RTL et toutes les plateformes partenaires.